écoutez France Inter, nous sommes le mardi 17 juin, il est 5h.
Le 5-7, Mathilde Munoz.
Bonjour à tous, on les aime bien souvent, même on les cherche, et pourtant ils ne nous veulent pas du bien. Les UV, ces rayons qui nous font bronzer et qui nous exposent aussi à un cancer de la peau. À quelques jours de l'été et des grandes vacances, la Ligue contre le cancer lance une campagne de communication pour nous alerter sur les dangers du soleil. Et je reçois l'un de ses responsables à 6h20, Alexandre Cobigot. Ambiance vacances également dans 11 décarbone. Raphaël Gerson nous aide à choisir le mode d'hébergement le plus écologique. Sa chronique est dans le Carrefour vers 7h moins le quart. Est-ce que nos microbes ont eux-mêmes des microbes? C'est la question des petits bateaux à 5h50. Juste après, vous aurez le jeu vidéo de la semaine, Out of Sight, un jeu d'aventure et d'horreur. Dans Regarde la France, gros plan sur un métier de l'ombre, greffier. Et côté playlist, des artistes en pleine lumière, Mathieu Bogertz, Billie Eilish et Keren Ann. Bon réveil, je vous accompagne jusqu'à 7h. Le journal Laura Dulieu, bonjour.
Bonjour.
Cinquième nuit d'escalade militaire entre Israël et l'Iran.
Une alerte aérienne a été brièvement déclenchée dans le nord d'Israël cette nuit au lendemain de nouvelles attaques israéliennes sur Téhéran et notamment sur le bâtiment de la télévision d'État iranienne. Une situation explosive qui inquiète les dirigeants du G7 réunis en ce moment au Canada. Donald Trump quitte le sommet plus tôt que prévu en raison de la situation au Moyen-Orient, dit la Maison-Blanche, tandis qu'Emmanuel Macron appelle Israël et l'Iran a cessé de frapper les civils, selon le chef de l'État français. Vouloir changer le régime iranien par la force serait une erreur stratégique. Il réagit aux déclarations de Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, sur la chaîne américaine ABC News, à propos d'un éventuel plan israélien pour éliminer le guide suprême iranien.
Cela n'aggravera pas le conflit, cela y mettra fin. Nous avons connu un demi-siècle de conflits propagés par ce régime qui terrorise tout le monde au Moyen-Orient, qui a bombardé les champs pétroliers d'Aramco en Arabie Saoudite, qui propage le terrorisme, la subversion et le sabotage partout. L'Iran veut une guerre éternelle et nous amène au bord d'une guerre nucléaire. En fait, ce qu'Israël fait, c'est empêcher cela, mettre fin à cette agression. Et nous ne pouvons le faire qu'en nous opposant aux forces du mal.
Mais côté iranien, les frappes israéliennes ont fait plus de 220 morts et un millier de blessés. L'espace aérien est enfermé. Les Iraniens tentent, comme ils peuvent, de se mettre à l'abri, notamment en fuyant la capitale. Sandrine Etoa-Andeg a pu recueillir à distance le témoignage d'un jeune Iranien qui a décidé de quitter la ville de Kermanshah à l'ouest du pays où l'hôpital a subi de nombreux dégâts, selon les médias iraniens, après avoir été ciblé par une frappe israélienne hier.
L'angoisse de ces 5 derniers jours de bombardement israélien, Fateh la résume par cette image en français.
Ce stress est devenu une seconde peau.
C'est une frappe israélienne dans son quartier qui l'a convaincu de quitter sa maison, située à Kermanshah, à plus de 500 km à l'ouest de Téhéran.
Et après ça, les autorités nous ont demandé d'évacuer. On savait que si on restait, on risquait nos vies.
Mais ce professeur d'anglais d'une vingtaine d'années est toujours aussi inquiet.
C'est une peur silencieuse du matin au soir. Ensemble, le claquement de porte nous fait sursauter. Les bureaux et les commerces sont ouverts. Il y a encore du pain, pas de pénurie pour le moment, mais on sent bien que ça pourrait changer vite.
Mohamed a décidé de rester à Téhéran. Il dit déjà constater des limitations d'achat de certains produits.
The bakeries are not selling bread.
Par exemple, dans les boulangeries, on demande aux gens d'être raisonnables, de ne pas acheter plus de 20 miches de pain en une fois, pareil dans les stations-service, de ne prendre que la quantité d'essence nécessaire. Les scènes d'embouteillage se multiplient avec la fuite des habitants de la capitale. Tout le monde devrait évacuer Téhéran maintenant, a posté hier soir Donald Trump sur son réseau Truth Social.
En Iran, les victimes sont à 90% des civils, selon le ministère iranien de la Santé. Au moins un mort, un citoyen américain et 16 personnes qui ont été blessées cette nuit à Kiev, en Ukraine, dans plusieurs frappes russes sur la capitale. Il s'agit d'une attaque combinée de drones et de missiles, selon les autorités ukrainiennes.
En France, un énième revirement du gouvernement sur le dispositif MaPrimeRénov'.
Après avoir annoncé il y a quelques jours une suspension pure et simple du dispositif cet été, le gouvernement décide finalement de maintenir ses aides à la rénovation énergétique pour les travaux travaux isolés face à la colère du secteur du bâtiment, tout en avertissant qu'il ne s'agira pas d'un puits sans fond illimité. Le guichet des rénovations d'ampleur, lui, sera bien suspendu jusqu'à la rentrée. De quoi raviver les clivages en matière de rénovation énergétique avec d'un côté les artisans, partisans d'un dispositif qui favorise et subventionne les petits gestes, et de l'autre les professionnels formés à la rénovation globale, considérés comme bien plus efficaces par le monde associatif et par les scientifiques. Certains sont donc soulagés par cette marche arrière partielle, quand d'autres sont atterrés, Claire Chaudière.
Pour la Fédération française du bâtiment, la satisfaction est à la hauteur du niveau de colère qui a traversé le secteur ces derniers jours. Rebrancher le dispositif de financement des gestes simples de rénovation, moins coûteux, isolation seule ou changement de système de chauffage, était indispensable, répète Olivier Saleron, son président.
La ficelle était un peu trop grosse. Trop, c'est trop. Les normes, les réglementations, quand on les change trop, c'est pour que ça ne fonctionne pas et sûrement ne pas dépenser un budget. Aujourd'hui, on est satisfait.
Au rythme auquel le dispositif était sollicité, l'enveloppe de MaPrimeRénov' aurait été entièrement consommée fin septembre, confirmait hier le ministère du Logement, qui pointe de trop nombreuses suspicions de fraude sur les dossiers de rénovation d'ampleur. Mais pour Vincent Legrand du réseau Doremi, spécialisé dans l'accompagnement à la rénovation globale justement, chaque décision prise depuis 10 jours, y compris ce rétablissement de dernière minute de l'aide aux travaux isolés, est un non-sens.
C'est quand même assez fou parce qu'on dépense de l'argent public pour des choses inefficaces et pour ce qui a montré son efficacité, on l'arrête. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Je pense que c'est ce qui se passe aujourd'hui. L'enjeu, c'est de mettre des contrôleurs.
Pour limiter le risque de fraude, l'exécutif annonce d'ores et déjà de son côté réfléchir à réduire la voilure des aides, avec notamment des plafonds de subventions plus bas.
Le guichet pour les rénovations d'ampleur sera suspendu dans les prochains jours jusqu'au 15 septembre, à l'exception des dossiers portés par les copropriétés, promet Valérie Létard. François Bayrou propose aux partenaires sociaux une prime pour les seniors qui décident de continuer à travailler alors que le conclave sur les retraites est censé se terminer aujourd'hui. Il s'agirait, selon le Premier ministre, d'un encouragement à l'activité en leur versant une partie de leur retraite en plus de leur salaire. Elisabeth Borne propose de décorer de la Légion d'honneur à titre posthume Mélanie, la surveillante tuée à coups de couteau par un élève de 14 ans à Nogent en Haute-Marne mardi dernier. Son enfant deviendra par ailleurs pupille de la nation, confirme le ministère de l'Éducation nationale.
Les journées se suivent et ne se ressemblent pas aux mondiaux de judo.
Après le sacre de Johann Benjamin Gaba dimanche, les Bleus ont fait chou blanc hier sur les tatamis de Budapest en Hongrie. Mais ils ont deux belles occasions de podium aujourd'hui. Chez les hommes, Maxime Gaël N'Gaïa Pambou va tenter de faire au moins aussi bien qu'aux Jeux de Paris, où il avait récolté le bronze chez les moins de 90 kilos. Quant au tableau féminin, Margot Pinault remet en jeu son titre de championne du monde, conquis à Abu Dhabi l'an dernier en moins de 70 kilos. Et sur le kimono de la Française, il y a bien le fameux dossard rouge tant convoité et qu'elle espère bien conserver.
Moi, ce qui vraiment m'a fait plaisir, c'est d'avoir le titre. Le dossard rouge est un peu un plus. J'essaie d'avoir un peu moins de pression. C'est vrai que je pose beaucoup à l'objectif et j'essaie de prendre plus de plaisir, d'avoir moins cette pression. Je veux faire championne du monde puisque c'est acquis. Mais on s'en remet forcément, l'être humain s'en remet, veut toujours plus, veut toujours mieux. Donc oui, je pourrais faire deux fois championne du monde. Après, on sait qu'être championne du monde, c'est très dur. Dans une catégorie très concurrentielle, il y a beaucoup de monde. J'aimerais forcément, je veux le conserver.
Et voilà, début des combats à 11h avec les phases finales à partir de 18h.
C'était le journal de Laura Dulieu, 5h08.
La météo avec TGV Inouï. Trouvez votre coin de ciel bleu dans une de nos 200 destinations en France et vers l'Europe.
Du beau temps, Elodie Calac.
Une journée ensoleillée et plus chaude, le soleil brille quasiment partout ce matin. Petit bémol vers la Manche, il faut composer avec des brouillards et des nuages bas sur le littoral, mais le soleil va revenir. Seules quelques grisailles résisteront très localement vers la pointe bretonne ou les côtes normandes. Il fait souvent 10 à 16 degrés ce matin, jusqu'à 18 à 22 en Méditerranée. Cet après-midi, toujours beaucoup de soleil, quelques nuages au nord de la Loire sans conséquence, peut-être un peu plus de nuages aussi vers les Pyrénées et sur le sud des Alpes, jusque dans l'intérieur de la Provence et sur la côte d'Azur avec une petite averse possible. Le vent faiblit en Méditerranée, mais des rafales à 60 km à l'heure persiste sur l'est de la Corse. La chaleur va s'accentuer cet après-midi. 20 degrés à Granville, 22 à Brest, 27 à Nancy ou Besançon, 28 à Lille, à Cannes, 29 degrés à Paris, Rennes, Bourges, Lyon ou Toulouse, 30 degrés à Tours et à Bordeaux et 33 pour Orange ou Perpignan. Les températures vont grimper au fil des jours sous le soleil et de très fortes chaleurs sont attendues pour la fin de la semaine.
France Inter, le 5-7.
Saint-Nazaire s'apprête à accueillir le Salon international du transport maritime à la voile, un domaine dans lequel la France est à la pointe et son organisateur est l'invité des chroniques littorales de José Manuel Lamarque dans 3 minutes. À suivre également le Doux Assort de Cyril Lacarrière consacré aux Glass Children, les enfants qui se sentent transparents. Quant à Tanguy Pastureau, il veut changer de métier, il cherche son avenir dans l'actu et ce n'est peut-être pas la meilleure des idées. Mathieu Bogertz dresse un état des lieux de sa cinquantaine dans son 9e album, un disque parsemé de mélancolie. C'est d'ailleurs le titre d'une de ses chansons. Et c'est celle qu'on écoute maintenant. Bon réveil sur France Inter. Mélancolie de Mathieu Bogertz a retrouvé sur son album Grand Piano qu'il jouera demain soir à Paris sur la scène de l'Archipel. Il y sera mercredi prochain aussi et vous pourrez le voir en juillet au Francofolie de La Rochelle. Il est 5h13, les chroniques littorales à la force du vent ce matin. Bonjour José Manuel Lamarque.
Bonjour Mathilde Munoz.
Vous nous invitez à un rendez-vous clé pour décarboner le transport maritime.
Et oui Mathilde, un rendez-vous jeudi et vendredi prochain à Saint-Nazaire pour la 3e édition de Win for Goods, le rendez-vous international dédié bien évidemment au transport maritime à la voile. Avec nous Antoine Adam, l'organisateur de Win for Goods. Antoine Adam, cette édition cette année est labellisée La mer en commun.
Oui tout à fait, c'était important pour nous de s'inscrire dans la continuité de cette année maritime et de faire de Win for Goods un événement national et qui rayonne à l'échelle internationale.
Ça rayonne à l'échelle internationale parce que je dois dire que la France, on est très très bon en propulsion vélique.
On est très avancé effectivement, et c'est un vrai foisonnement d'acteurs qui rayonne à l'échelle européenne notamment, même si Win for Goods est de plus en plus un événement qui parle à une cible internationale puisqu'on aura cette année un tiers d'acteurs qui viennent d'Europe et du monde entier. Mais on a en France une vraie spécificité, une vraie excellence sur ce sujet.
70 exposants.
74, ouais, très
précisément. Et 74 maintenant, à l'heure où on parle, ça y est, il y en a 4 en plus qui se sont greffés.
Exactement, on a une vraie croissance. On ne peut pas pousser plus les murs.
Bon, c'est très prometteur parce que bien évidemment, nous sommes sur la décarbonation du transport maritime. Et je vois que la propulsion vélique a franchi le cap symbolique des 100 navires en service. 100,
exactement.
Plus les autres en commande.
Tout à fait, c'est un vrai sujet pour nous cette année. C'est presque le sujet d'ailleurs principal de cette édition. C'est-à-dire qu'on a passé un cap sur cette filière et l'idée, c'est aujourd'hui d'avoir des retours d'expérience sur les navires qui sont déjà équipés. Et ça, ça va vraiment changer la donne, notamment pour les armateurs qui attendaient un peu de voir ce que ça allait donner et quels allaient être les retours d'expérience. Et donc, c'est le sujet principal dont on va parler cette année.
Plus de 20 conférences, tables rondes, ateliers, c'est quand même pas mal.
L'idée, c'est de balayer un peu tous les sujets d'actualité de la filière, faire une photographie de ce qu'est cette filière et de la dynamique dans laquelle elle se trouve. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la dynamique est très positive, puisqu'on a à la fois une croissance en termes de nombre d'acteurs qui travaillent sur ce sujet, mais on a surtout une chaîne de valeur qui est en train d'exister. Et c'est toute cette diversité qu'on va essayer de montrer, de l'échelle portuaire jusque finalement à l'ensemble des usages de la propulsion vélique, qui ne sont pas que pour le transport maritime de marchandises et de passagers, mais qui peuvent aussi être pour la pêche, l'exploration scientifique, le transport de passagers sur des petites distances et sur le cabotage, donc transport maritime plutôt côtier.
Je vois au passage que Guillaume Legrand, le fondateur de TOWT, sera présent. Yves Parlier, le président et fondateur de Beyond the Sea, et Lise de Trimont, la déléguée générale de Winship. Voilà, avec Lise de Trimont, on est passé à International Winship Association. Donc maintenant, c'est au niveau mondial.
C'est dans tous les cas, de fait, une filière qui est très internationale, puisqu'elle est très dépendante de l'aspect géopolitique, elle est très dépendante de ce qui se passe en termes de réglementation internationale. Et puis, tous les ports sont connectés les uns aux autres. Tous ces acteurs sont très interdépendants. Donc c'est aussi pour ça que notre volonté de faire de Win for Goods un événement international est importante, puisque c'est le moment où on essaye de réunir les acteurs pour qu'ils puissent échanger entre eux et pour qu'ils puissent essayer d'avancer sur ces sujets.
Avec 4 bateaux qui seront exposés en conditions réelles sur le bassin, et là on pourra partir avec des bateaux à propulsion vélique.
L'idée de Win for Goods depuis le début, c'est un peu de montrer en conditions réelles, entre guillemets, toutes ces technologies. Alors la voile, ça parle à tout le monde, mais ce sont des nouvelles technologies, dans le sens où elles intègrent tout un tas de technologies très modernes. Ce ne sont pas que des voiles telles qu'on les a en tête dans notre imaginaire. Et donc l'idée de Win for Goods, c'est d'avoir à la fois des prototypes en intérieur qui vont pouvoir montrer ce que seront ces voiles dans le futur, à échelle plus grande bien sûr, et des bateaux en extérieur qui intègrent ces technologies. Donc on aura le bateau de Wizamo, on aura un bateau des chantiers de l'Atlantique, le bateau de Beyond the Sea d'Yves Parlier et un bateau d'Assay Sailwing qui feront des démonstrations en mer de leur technologie.
Eh bien on se donne rendez-vous, Antoine Adam, jeudi, vendredi prochain, 19 et 20 juin, bien évidemment. C'est ouvert à tous. Merci à vous Antoine Adam. Un site internet Win for Goods, tout attaché, .fr. Rendez-vous à Saint-Nazaire. Et merci à nos amis de ICI Loire-Océan qui ont permis ce duplex. À demain, Mathilde Munoz.
À demain, José-Manuel Lamarque.
Le 5-7 sur France Inter.
Il est 5h17, deux actus différentes à la une de la presse ce matin, les retraites et la guerre Iran-Israël. La réforme des retraites d'abord, le conclave a-t-il été concluant, se demande Libération. Patronat et syndicats se retrouvent une dernière fois aujourd'hui pour tenter de s'entendre, mais les points d'achoppement persistent, que ce soit l'âge de départ, les cotisations ou la pénibilité. Et de son côté, François Bayrou croise les doigts, nous raconte le Figaro, il a besoin de cet accord entre partenaires sociaux afin d'échapper à la censure. Le Premier ministre joue sa survie politique. Il consultera d'ailleurs les formations politiques dans les prochaines semaines. Reste à savoir si le PS et le RN sont toujours disposés à laisser le gouvernement en place. L'autre grand titre, c'est la guerre au Moyen-Orient. L'Iran peut-il tenir, s'interroge l'opinion. Le régime iranien peut-il s'écrouler, questionne le Parisien aujourd'hui en France. La République islamique est pilonnée par l'aviation israélienne depuis vendredi. Elle tente de réorganiser ses forces, mais ses pertes sont lourdes. Israël cible les infrastructures énergétiques et les QG des principales institutions, notamment celles liées à la défense et aux services de renseignement. Les alliés de Téhéran, la Russie et la Chine, eux, se limitent à un soutien politique. Jamais le régime des Mollahs n'a semblé aussi proche de s'effondrer. Ce conflit occupe bien évidemment les discussions du sommet du G7 qui se tient au Canada. Les dirigeants des grandes puissances tentent de dégager une position commune. La plupart défendent la guerre préventive de Benjamin Netanyahu. Chaou et c'est le dossier de l'humanité. Je vous donne les grands titres des deux derniers quotidiens nationaux. Les échos reviennent sur le départ de Luca de Meo de Renault. Le constructeur automobile se retrouve groggy et dans l'incertitude et il se cherche maintenant un nouveau patron. De son côté, La Croix s'intéresse aux réseaux sociaux et à tout le mal qu'ils font aux jeunes. Réseaux et santé mentale, ce que dit vraiment la science. Le consensus n'est pas total sur le sujet car on manque encore de recul. Une certitude, la surexposition aux écrans entraîne une dégradation du sommeil. Or, le manque de sommeil favorise dépression et anxiété. Comment se construire quand on est transparent pour ses parents? C'est ce que ressentent parfois les enfants qui grandissent avec un frère ou une sœur gravement malade. On les appelle les « glass children ». C'était le mot du jour hier dans Zoom Zoom Zen. D'où ça sort Cyril Lacarrière?
Alicia Menezé-Maples, c'est à elle qu'on doit cette notion de glass child, d'enfant transparent. Elle en parle pour la première fois en 2010 lors d'une conférence TEDx. Alors si vous ne situez pas, les conférences TEDx sont devenues des lieux de passage obligés pour tous les entrepreneurs de la tech, mais aussi de plus en plus certains acteurs politiques et même plus simplement pour des personnalités qui veulent faire entendre leurs idées sur des sujets de société émergents. Et c'est comme ça qu'Alice Maples, femme d'affaires et entrepreneuse, se retrouve en décembre 2010 sur une scène d'une conférence à San Antonio pour parler des Glass Child, des Glass Children, et plus précisément d'un cas qu'elle connaît bien, le sien.
Et qu'est-ce qu'elle en dit alors?
Que sa vie s'est construite dans l'absence de ses parents. Ils étaient accaparés par son frère atteint d'autisme et par un autre frère atteint d'une maladie grave. Dans ce contexte, Alicia Maples raconte comment la petite fille qu'elle était alors a appris à toujours faire bonne figure. Comment elle devait jouer le rôle de la gentille fille vis-à-vis de l'extérieur, une enfant pour qui tout allait bien. Alors qu'au fond, elle souffrait de ne pas exister pour ses parents, des parents qui ne la regardaient pas vraiment et regardaient à travers elle l'enfant qui n'avait pas de problème comme à travers une vitre, d'où l'expression « glass child ». Alors, comment c'est d'être un enfant pour qui tout va bien quand votre frère ou votre sœur ne va pas bien? Qu'est-ce que vos parents attendent de vous? Comment trouver sa place? Comment les parents doivent s'y prendre? C'est ce qu'on va voir durant une heure.
Cyril Lacarrière, du lundi au vendredi dans Zoom Zoom Zen de Mathieu Noël. À 16h cet après-midi, l'émission sera consacrée à la végétalisation urbaine, plus d'espaces verts en ville pour des températures qui baissent. On retrouve Tanguy Pastureau dans 3 minutes, juste après un fan un peu trop fan qui franchit la limite du harcèlement de la star qu'il adule. C'est ce que chante Billie Eilish dans The Dinner. $50,000 bill. While I'm away, don't wait on me. The Dinner, c'est un extrait du troisième album de Billie Eilish sorti l'an dernier, Hit Me Hard and Soft, et qu'elle jouait à Paris la semaine dernière devant deux Accor Arena pleins à craquer.
France Inter.
Il est 5h24, c'est le mercato médiatique en ce moment. Des journalistes changent de poste, voire de chaîne. Tanguy Pastureau, lui, hésite carrément à se reconvertir.
J'ai lu le journal, c'est un truc de vieux, hein, comme le fait de marcher les mains dans le dos ou de voter centriste. J'ai lu Le Parisien et à la page média, il y avait un article sur Léa Salamé. Je ne sais pas si vous voyez. C'est cette dame avec qui je collaborais à un moment sur France Inter, puis j'ai arrêté, donc forcément on parle un peu moins d'elle. Mais elle continue avec Nicolas Demorand sur le 7-10, anciennement 7-9. Avant, j'imagine que c'était le 7-8 et encore avant le 7-7. Là, c'est le job en or. Il y a un mec qui à l'antenne devait dire bonjour, à demain, avant de se barrer, quoi. J'aurais adoré être cette personne parce que ne rien faire, c'est ma passion. Donc, je vous raconte, dans l'article, il est dit que Léa Salamé s'est mise au vert ce week-end pour réfléchir à sa rentrée parce qu'elle a plein de propositions. Ça rappelle moi, sauf qu'elle a plein de propositions. Le Parisien, BFM TV, quand même, lui a proposé un late show quotidien, 19h-23h. L'article parle même d'un pont d'or qui lui a été fait. Moi, je réfléchirais, je veux dire, un pont d'or. Même une passerelle d'or, je me dirais pourquoi pas, même une branche en or posée de manière branlante entre les deux côtés du ruisseau d'ailleurs. Et même si cette branche était en alu, Mélia Salamé n'est pas vénale. 10 ans sur Inter, c'est le signe qu'on est désintéressé. Moi, rien qu'avec mon CV en main, je peux être validé par une troupe d'altermondialistes qui dorment dans les arbres. Donc, elle hésite. D'autant que France 2 lui a proposé le JT de 20h. Bref, elle est très demandée. Elle n'endort pas la nuit, écrit Le Parisien. Et là, je compatis. Ah là là, être désiré par tout le monde, quelle horreur, hein. C'est comme ces amis tiraillés entre deux femmes à qui vous avez envie de répondre « Mais ta gueule, en fait, parce que vous êtes célibataire depuis 14 ans. » Et ce matin, je buvais un café à la brasserie en face de la radio, sans lunettes de soleil pour qu'on me reconnaisse. Je criais même mon nom aux gens. Et là, je me suis dit, Léa Salamé et moi, on est dans le même bateau, quoi. Ou presque, mais qu'est-ce qu'un optimiste, sinon un yacht sans moteur pour une seule personne pas très grande. Parce qu'en fait, moi aussi, je réfléchis à la rentrée. Ça fait 8 ans que je suis là. C'est beaucoup, 8 ans. Comme j'ai dit à Daniel ce matin, est-ce qu'on a encore des choses à vivre ensemble? Et puis, je me dis qu'il est peut-être temps de changer de métier. Parce que, en fait, je me suis trompé. J'aurais dû faire vendeur d'armes. Voilà, là, je serais devenu riche. Marcel Dassault, il n'était pas parti sur la tournée des Comedy Club. Il s'était posé. Il s'était dit, bien, que font les gens? Ils boivent du Dubonnet, c'était le Spritz de l'époque. Ils écoutent Maurice Chevalier, c'était le Joule de l'époque. Mais surtout, ils se battent. Moi, de tout temps, j'ai cru à la paix. Qu'est-ce que je pouvais faire? Vendre des colombes? Il n'y a jamais eu assez de magiciens dans le circuit pour faire ça. Donc vendeur d'armes, c'est cuit. J'avais pensé devenir gardien de la révolution iranienne. Actuellement, il y a du débouché, ils en perdent 30 par jour. Hein, chez Manpower, là-bas, ça doit y aller. Mais bon, décrocher le job pour prendre une requête 9 minutes plus tard. Je sais que dans le milieu pro, c'est bien de se projeter, mais pas sur les murs. Ça fait une très mauvaise photo ensuite pour votre profil LinkedIn, quoi. En plus, j'ai entendu à la télé que le fils du chat, le chaton d'Iran, là, réfléchissait à faire son comeback. Donc, il y a peu d'avenir à la révolution islamique réellement. Mais qu'est-ce que je pourrais faire? Premier ministre en France? Non, j'ai un besoin pathétique d'être aimé. Or, François Bayrou, le chat du Béarn, est à 17% de satisfait dans un sondage paru samedi. 17%. C'est-à-dire que si au Hellfest, le week-end prochain, vous faites jouer Pomme et Renaud Capuçon, il y aura plus de satisfaits que là avec Bayrou. Il est devenu le premier ministre le plus impopulaire de la 5e République et l'un des individus les plus haïs de l'histoire. Dans le classement, il est entre Barbe Bleue et Francis Saulme. Donc le premier ministre, là non plus, c'est pas pour moi. Et en fin de compte, je me suis dit, pourquoi pas chanteur? Ah, Nagui m'inviterait à Taratata. On se verrait, mais dans un autre cadre. Puisque les soirées guitare et rien d'autre qu'organise Old Laf, Nagui ne vient pas. On se retrouve au sauna sans lui à écouter Old Laf détourné du Louis Chédid. Anne, ma sueur, Anne. Un truc de sauna. Mais toujours dans Le Parisien, avec la pub que je leur fais, j'espère qu'ils vont m'offrir un abonnement, ces chiens. J'ai lu un article sur le concert parisien de Michel Polnareff. C'était samedi. Et bon, au concert, vous savez, on dit des choses au public. C'est normal parce qu'ils ont payé. Donc il y a le classique « Ça va Paris ?» ou alors « J'entends rien !» Mais bon, Polnareff a 80 ans, donc le public l'aurait pris au pied de la lettre. Il serait mieux hurlé. Ce qui fait que lui, samedi, a déclaré, je cite, « J'aimerais faire l'amour avec vous tous. » Ce qui, dans une salle de 80 personnes, est déjà présomptueux. Hein, Daniel Morin, point virgule, a juste conclu en disant « Étonné que je suis réaliste, je vous souhaite de passer une bonne fin de soirée. » Mais l'Accor Arena, 20 000 personnes, on en revient à l'Odyssée, mais c'est une orgie incluant l'ensemble de la Grèce et de la Rome antique. Quoi. Et moi, je ne me vois pas mentir au public. « J'aimerais faire l'amour avec vous tous. » C'est tellement, c'est se vanter que dire ça. « J'aimerais faire l'amour avec une personne, et encore si j'y arrive, me paraît plus honnête. » Bon, résumons, chanteur chanteur, j'ai plus la force. Premier ministre, j'ai horreur qu'on me déteste. Gardien de la Révolution, la barbe me va mal. Et vendeur d'armes, il y a trop de travail. Je vais peut-être continuer comique, mais voilà, il faut que je me mette au vert et que je réfléchisse. Des fois qu'on me fasse un pont de singe en or ou en zinc.
Tanguy Pastureau maltraite l'info tous les jours à 12h10 dans la bande originale de Nagui et Leïla Kadour.
France Inter présente
le podcast Espion, une histoire vraie.
Stéphanie Duncan.
Une série de portraits d'agents secrets pour plonger dans les eaux troubles de l'histoire. De Paris à New York, en passant par Moscou, Buenos Aires ou Téhéran, suivez les aventures fascinantes de ces hommes et de ces femmes au destin hors du commun.
Espion, une histoire vraie.
Retrouvez tous les épisodes sur l'appli Radio France et franceinter.fr.
Le 5-7 se poursuit en musique. Dans 5 minutes, nous allons vous passer la nouvelle chanson de Kerenan, une déclaration d'amour à la ville de Paris. Et si vous aimez vous faire peur, manette en main, ne ratez pas la faute aux jeux vidéo. Juste avant le journal de 6h, Olivier Bénis a trouvé de quoi vous faire trembler. France Inter, il est 5h30. Un point sur les dernières infos avec Laura Dulieu. En 5 jours d'attaque en Iran, les Israéliens ont détruit un grand nombre de cibles militaires et nucléaires.
Mais il est encore trop tôt pour savoir si cette opération privera ou non l'Iran de sa capacité à se doter de l'arme nucléaire, comme l'espère le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle fera date pour le Mossad, car le service de renseignement extérieur israélien avait méthodiquement planifié ces attaques depuis des mois, voire depuis des années, Virginie Pironon.
Oui, selon les médias israéliens, il a fallu entre 8 mois et 2 ans pour préparer cette opération. Mais en réalité, ces attaques se sont appuyées sur des années de planification et surtout d'infiltration secrète au sein même du pouvoir iranien. Selon les spécialistes, que ce soit en Israël ou en Iran, des centaines d'agents du Mossad ont été impliqués, y compris une unité spéciale d'opérateurs iraniens travaillant pour le Mossad. Israël a livré quelques détails sur la chaîne américaine Fox News, expliquant que ces services ont réussi à faire entrer des drones, des armes sur le sol iranien, placées tout près de lanceurs de missiles sol-air et parfois même cachées, je cite, dans des rochers. Le Mossad, qui grâce à ses renseignements a réussi à frapper au même endroit plusieurs hauts gradés de l'armée de l'air iranienne, une précision chirurgicale, ce qui fait dire à l'état-major israélien que cette opération est, je cite, son plus grand succès dans la collaboration entre les services de renseignement et l'armée dans toute l'histoire d'Israël.
Et face à cette escalade militaire, le G7 affirme à l'instant que l'Iran ne devra jamais disposer d'une arme nucléaire dans une déclaration commune, affirmant le droit d'Israël à se défendre. Mais le G7 appelle à protéger les civils. Il dit aussi vouloir que la résolution de la crise en Iran amène une désescalade régionale, y compris à Gaza, tandis que Donald Trump, lui, quitte précipitamment ce sommet en raison de la situation au Moyen-Orient, dit la Maison-Blanche. En France, le dispositif MaPrimeRénov, finalement maintenu, mais partiellement, uniquement pour les travaux isolés de rénovation, comme l'installation d'une chaudière ou de nouvelles fenêtres, annonce le ministère du Logement. Plusieurs organisations professionnelles avaient dénoncé la suspension estivale du dispositif annoncé début juin par le gouvernement pour notamment lutter contre les dossiers frauduleux. Un nouvel accident mortel lié à un airbag défectueux sur une Citroën C3. C'est une information de la cellule investigation de Radio France. Et c'était le 11 juin à Reims, dans la Marne. Une mère de famille est morte. C'est le deuxième accident mortel dans l'Hexagone. Il y en a déjà eu 17 en Outre-mer depuis 2016. Et les capsules de gaz de ces airbags peuvent projeter des bouts de métal partout dans l'habitacle en se déclenchant. Et la victime n'avait pas reçu de courrier de rappel pour changer ses airbags Takata de sa voiture. Le fabricant japonais du même nom a été condamné en 2017 aux États-Unis pour fraude et conspiration.
En Guadeloupe, l'alerte rouge des magistrats sur les homicides et les guerres de gangs qui se multiplient ces derniers mois dans l'archipel.
Depuis la mort début juin d'un adolescent de 13 ans tué par balle alors qu'il avait lui-même une arme à feu à la main, les appels à une prise de conscience sur la gravité de la situation dans toutes les Antilles se multiplient. Cet après-midi, plusieurs hauts magistrats tiendront une conférence de presse sur le sujet. Et rien que dans les îles de la Guadeloupe, soit 400 000 habitants, il y a eu 27 homicides par balle depuis le début de l'année. C'est du jamais vu. Alors que la circulation des armes dans toute la zone Caraïbe atteint des niveaux inédits à l'ONU Le Jeune.
On n'a pas de grands groupes criminels organisés comme en métropole, confie un enquêteur en poste en Guadeloupe. En revanche, le nombre de gangs, en lien souvent au départ avec l'industrie de la musique et les petites bandes de quartier, rapporté au nombre d'habitants, c'est énorme, dit-il. Et là, il n'arrête plus de se faire la guerre pour des parts de marché de la drogue. En plus des 27 homicides par balle depuis le début de l'année, selon la procureure de la République de Pointe-à-Pitre, il y a eu plus de 100 tentatives de meurtre, la moitié en zone police, le reste en zone gendarmerie. Car en plus des règlements de compte, il faut ajouter des agressions armées en série pour des vols de bijoux en or et des carjackings. Et quand les conducteurs de voitures tentent de s'échapper, il y a très souvent ouverture du feu. Selon des statistiques du ministère de l'Intérieur, il y aurait 40 000 armes en circulation en Guadeloupe. 85% sont illégales. Des revolvers Glock, des tournées des armureries aux États-Unis et puis des Taurus fournis par les mafias brésiliennes lors des livraisons de drogue.
Naloen Lejeune. Un cas autochtone de chikungunya détecté dans l'Hérault chez une personne n'ayant pas voyagé récemment dans la zone tropicale. C'est le deuxième cas autochtone dans l'Hexagone après le premier découvert dans le Var. Le ministre de la Santé, Yannick Noder, rappelle la nécessité de sensibiliser la population à la canicule, mais surtout au risque de chikungunya afin d'anticiper les tensions sur le système de santé cet été.
C'était le journal de Laura Dulieu. La météo, encore un soleil conquérant. Bon, si je pinaille, je peux vous dire quand même qu'il y a quelques grisailles vers la Manche ce matin, quelques nuages au nord de la Loire cet après-midi, quelques nuages aussi sur les Pyrénées et le sud des Alpes, mais là avec une averse possible. Et les températures continuent de grimper, 10 à 16 degrés au réveil, jusqu'à 22 en Méditerranée. Cet après-midi, 26 à 30 degrés en moyenne. Il est 5h35 à suivre dans cette nouvelle demi-heure du 5-7, un reportage dans les abris de Tel Aviv, où les habitants se réfugient pour échapper aux missiles iraniens. Il y aura aussi l'invité déjà debout, les petits bateaux sur les microbes et un jeu vidéo à l'ambiance angoissante, Out of Sight.
France Inter. Le 5-7.
Kerenan est de retour dans la playlist de France Inter. Bonjour Marion Guilbeault.
Bonjour Mathilde.
Kerenan qui fête ses 25 ans de carrière en solo.
Kerenan qui se lâche sur la musique à fond, plus qu'une chanson, c'est vraiment une déclaration d'intention lumineuse, groovy. Kerenan qui fêtera donc en 2025 ses 25 ans de chansons et qui n'a eu de cesse d'ouvrir, d'enrichir son écriture avec un spectacle en compagnie d'Irène Jacob, avec la composition d'un opéra, Red Waters, avec un disque en compagnie du quatuor Debussy, une série de podcasts, l'Instant Poésie sur France Culture, avec toujours donc cette écriture si précise, si fine, quand il s'agit d'ausculter le féminin. Ce n'est pas une fan de Sylvia Plath et de Virginia Woolf pour rien. Cette guitariste émérite accorde la même exigence au son de ses disques, un son élégant, chaleureux, aux réminiscences 60s et 70s.
Je sais que parfois je suis bien peu de choses, qu'il me reste le reste d'une foutue promesse. Que l'amour sans lendemain, tu en as eu ta dose. Que le bonheur, la joie, tu les fuis de justesse. Pour ce vieil interlude, cette affreuse habitude, cette divine plénitude.
Le désarroi sentimental, la mélancolie de la sublime solitude, c'est un des nouveaux titres de Kerenan. La mélancolie, c'est un sentiment que cette voix subtile connaît bien. Elle y trouve l'inspiration, comme Françoise Hardy avant elle. Le spleen est doux quand on sait l'apprivoiser et le transformer en chanson. Kerenan nous promet un nouvel album à la météo changeante, entre climat orageux et titres solaires. Et avec en toile de fond la ville lumière, Paris, celle où cette globe-trotteuse a aujourd'hui posé ses valises. Une ville qui lui va bien, la ville des poètes et de l'amour.
Je suis rentrée par la fêlure d'un monde qui m'a eu à l'usure, d'un vieux fado qui vient de loin, qui bat son plein, qui qui cherche quelqu'un. J'ai rencontré dans les coulisses le son, l'ivresse et les délices de ceux qui longtemps avant moi y avaient droit à cette vie-là. Tu sais, parfois ça sent l'arnaque. Y en a qui se cassent, y en a qui raquent. Y a ceux qui se taisent, qui rasent les murs. J'ai leurs empreintes sur mes serrures. Par la fêlure d'un monde qui m'a eu à l'usure, d'une vue qui donne sur l'infini, d'un demi-siècle, d'une longue nuit. Tu sais, parfois ça sent la faim. Y en a qui se mangent, qui se doutent de rien. Ceux qui te plaisent, qui parlent sans feinte. J'ai mes serrures sur leurs enceintes. Paris, t'es dur, Paris, je te jure, Paris, tu m'as.
Amour de Kerenan, à retrouver sur l'album du même nom qui sortira le 12 septembre. À demain Marion Guilbeault.
À demain Mathilde.
Il est 5h42, cinquième jour de guerre entre Israël et l'Iran avec des frappes de part et d'autre. À Tel Aviv, les nuits se suivent et se ressemblent, morcelées par les passages de missiles iraniens. Les habitants sont régulièrement contraints de se mettre à l'abri. Reportage Alice Moreno.
À chaque salve de missiles lancée par l'Iran, le hurlement des sirènes d'alerte rythme les nuits des Israéliens.
Nous avons des pré-notifications 10 minutes avant. Oui, on vient d'en recevoir une, on doit se rapprocher de l'abri.
Elon est réceptionniste dans un petit hôtel de Jaffa au sud de Tel Aviv. Il nous guide jusqu'à l'abri en sous-sol. La pièce est étroite, fermée par une porte anti-explosion.
Je suis les nouvelles sur Telegram et nous n'allons probablement pas dormir cette nuit.
Les clients de l'hôtel, les voisins, une quinzaine de personnes se réfugient dans l'abri.
J'ai couru jusqu'ici. Quelqu'un m'a parlé de cet abri et c'est le meilleur des abris, en sous-sol. La meilleure et la première des options, si vous le pouvez.
Vers 3h du matin, de violentes frappes résonnent dans la cage d'escalier. Le missile est tombé à 4 km d'ici.
Je l'ai entendu et ressenti. Je pensais que c'était juste à côté. Finalement, c'était un peu plus loin, mais je l'ai senti.
Une demi-heure plus tard, l'alerte est levée. Chacun va tenter de trouver le sommeil. Aux premières lueurs du jour, Tel Aviv est presque silencieuse. La ville est encore groggy des frappes de la nuit. Habituellement si animées en ce premier jour de semaine, les rues sont aujourd'hui quasi désertes.
Les gens ne sortent pas tellement. Il y a bien quelques personnes, mais pas autant que d'habitude.
Ethan boit son café sur l'une des rares terrasses ouvertes.
Tous les enfants sont à la maison, il n'y a pas d'école, pas de crèche.
Sortis des sous-sols, des habitants viennent reprendre leur souffle sur la corniche. Ils contemplent les vagues, le bleu franc de la mer Méditerranée.
Vous ne pouvez pas rester dans les abris en permanence, c'est trop dur pour l'esprit, vous savez.
On est venu pour se remettre de la nuit très difficile d'hier. C'était vraiment terrible. J'ai des enfants en bas âge. Heureusement que nous avons un abri près de la maison.
Ce couple songe aux jours à venir.
On sait que ça va durer, mais on est sûr de gagner. À mon avis, ça va durer quelques mois.
Un hélicoptère militaire patrouille le long de la côte. Karim lève le nez vers le ciel.
C'est juste pour la protection, pas pour les frappes. Je ne soutiens pas cette guerre. De toute façon, je suis perdant. Je suis palestinien, musulman. Personne ne se préoccupe de moi.
À Rishon LeZion, au sud de Tel Aviv, les habitants d'un quartier résidentiel ont été durement touchés par une frappe. Pendant que des ouvriers réparent ce qui peut encore l'être, Yovan vient aider sa mère à emporter quelques affaires.
Je ne réalise pas ce qui se passe. Je ne sais pas si je le réaliserai un jour. Ma mère aurait pu mourir entre les murs de sa cave. Mais enfin, on doit aider quiconque en a besoin.
Dans la même rue, un couple d'octogénaires a été tué par l'impact. Israël compte désormais ses morts et se prépare à un conflit qui durera au moins plusieurs semaines.
Le dernier bilan en Israël est de 24 morts depuis vendredi. De son côté, l'Iran dénombre 224. Nous serons à Téhéran dans le Zoom à 7h15.
France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
Il est 6h moins le quart. Tous à vos ordinateurs, ne soyez pas timides. Écrivez-nous pour passer à l'antenne dans le cadre du rendez-vous Déjà Debout. Notre adresse, c'est le 5-7 @radiofrance.com. Bonjour Pascal Fossius.
Bonjour.
C'est vous, notre lefto du jour. Lefto tous les jours?
Quasiment, quasiment. Très, très souvent.
À quelle heure?
Là, 5h moins le quart.
Ouais. Et pourquoi vous aimez vous lever si tôt? Vous aimez ou c'est peut-être une obligation d'ailleurs, je ne sais pas.
Ah non, non, ça n'est absolument pas une obligation. Je travaille dans le... Moi, je fais du conseil en ressources humaines. Plus précisément, j'accompagne beaucoup des entreprises dans leur réorganisation, dans leur transformation. Et donc, il y a cette dynamique de travail auprès de personnes qui sont souvent dans la tempête dans ces transformations, qu'il s'agisse de comités de direction, qu'il s'agisse de managers, de proximité, de ressources humaines, d'élus également. Et le sujet, c'est de pouvoir me ressourcer, en fait, hein, parce qu'ils sont dans la tempête et il y a plein de choses qu'il faut un petit peu aborder autrement aujourd'hui, qu'il faut un petit peu aider à réfléchir autrement. Et dans ces dynamiques-là, moi, j'ai trouvé un temps à moi le matin pour me ressourcer, prendre du recul.
Besoin de calme avant d'affronter cette tempête, c'est ça?
Voilà, exactement. C'est mon calme avant les tempêtes, exactement.
Et vous en faites quoi de ce moment de calme?
Alors, ce que j'en fais, c'est j'aime beaucoup. Alors, d'ailleurs, il y a un lien très fort. Je l'expliquerai tout à l'heure. Mais ce que je fais, c'est que je me nourris beaucoup dans ces prises de recul de l'art, d'artistes. J'ai une passion pour certains peintres. Hein. Marc Rothko, d'ailleurs, en particulier, et je lisais même quelque chose de lui et de son fils, qui parle de son père ce matin, et j'aime beaucoup Matisse, je dirais pourquoi, et le lien que j'en fais avec mon travail, et je lis énormément, en fait, hein, aussi de philosophes, d'écrivains.
Et vous peignez vous-même?
Alors, très bonne question, moi je ne peins pas moi-même, enfin j'ai fait pas mal d'écoles de j'ai fait une école de peinture quand j'étais adolescente, mais je ne peins pas, j'écris en fait.
Voilà. Vous écrivez quoi?
Alors moi j'écris
des lettres, des romans, des poèmes.
Alors Alors, je suis en écriture de plusieurs romans et puis d'un travail que je mène sur justement autour de l'art sur comment l'art contribue un petit peu à réparer le monde, voilà, dans le monde.
Rien que ça.
Mais donc non, mais j'en suis à des, parce que beaucoup d'artistes s'intéressent à cette question-là, finalement transversale, et à force de lire aussi, ça nourrit un point de vue que je commence à exprimer dans l'écriture d'un livre, voilà.
Et donc vous me disiez tout à l'heure que Matisse avait un lien avec votre travail.
Oui, alors Matisse, Rothko, donc en fait ce sont des ce qui est absolument fantastique et ce qui m'inspire énormément, c'est alors Matisse est un pionnier du fauvisme et il a su capturer donc l'essence de ces sujets mais avec une simplicité apparente mais avec une profondeur émotionnelle qui absolument remarquable. Et c'est la dimension émotionnelle de son travail. C'est un courant en fait qui exalte vraiment les couleurs et les émotions. Et je me passionne encore plus au sommet de cette dimension là géniale. Il y a le peintre Marc Rothko qui travaille sur dans la dernière période de troisième période on va dire de sa vie sur la construction d'énormes tableaux avec des bandes de couleurs, des grandes bandes de couleurs. Et cette période-là qui m'intéresse essentiellement, il fait partie du courant de l'expressionnisme abstrait américain.
Et donc le lien avec votre travail.
Ouais. Alors donc le lien c'est que finalement il y a dans ces démarches d'accompagnement que nous réalisons en entreprise auprès de beaucoup de catégories d'acteurs, il y a le fait de pouvoir les accompagner sur le champ des émotions, d'accord, décryptage des émotions et de pouvoir, c'est une force énorme. Au sein même de notre cabinet, il y a on réfléchit beaucoup là-dessus, on a développé une école aussi là-dessus. Il y a vraiment, donc je suis partie du cabinet du groupe Oasis et qui travaille dans la BU, conseil de Diocesi, et donc nous avançons énormément et ça apporte énormément au président. Catégorie d'acteurs, de pouvoir décoder leurs émotions, de pouvoir avancer dans leur transformation à l'appui des émotions.
Et donc vos lectures du matin sur ces peintres, finalement, sont en lien quand même avec le travail et la tempête que vous allez affronter dans la journée, comme vous nous l'avez dit. Merci Pascal Fossius de nous avoir appelé ce matin. Vous étiez l'invité déjà debout. Il est 5h51, les petits bateaux de Camille Cronier naviguent ce matin dans le corps humain.
Et coucou les petites curieuses et les petits curieux, allez hop, sortez les microscopes.
Bonjour, je m'appelle Tariq, j'ai 5 ans et demi, je voudrais savoir ce que nos microbes à nous ont des microbes. Merci, au revoir.
Et vous êtes beaucoup à nous poser cette question. Tariq, je te nomme donc porte-parole des autres enfants là-dessus. Est-ce que nos microbes à nous ont des microbes? Une bactériologiste est là pour te répondre. La professeure Geneviève Herry-Arnaud, chef du département des agents infectieux au CHU de Brest, le centre hospitalier universitaire.
Alors, c'est une très bonne question parce que figure-toi que les bactéries sont un peu comme toi. Parfois, elles ont peur de certains microbes et en particulier, elles peuvent avoir peur des virus. Pourquoi ? Parce qu'on a décrit des virus qui étaient mangeurs de bactéries.
Non !
Donc en fait, le virus est capable d'attaquer une bactérie, de pénétrer à l'intérieur d'une bactérie, de s'y multiplier. On appelle ça des bactériophages. Donc en fait, ils vont carrément manger la bactérie en s'y multipliant. Et à la fin, la bactérie va exploser. Donc on a vraiment des virus destructeurs de bactéries. Et en fait, on a trouvé qu'en médecine, ça pouvait être des virus intéressants, puisque, comme tu le sais peut-être, on a certaines bactéries qui sont méchantes, qui peuvent donner des maladies. Et donc actuellement, on va parler de phagothérapie. Donc c'est l'utilisation de ces virus, qu'on appelle des phages, pour essayer de contrecarrer et attaquer des bactéries méchantes.
Pour détruire les bactéries méchantes,
on prend un virus.
Mais le virus, il est méchant lui aussi, non?
Non, ce sont des virus qui sont méchants juste pour la bactérie et pour un type de bactérie, mais qui sont complètement anodins pour nous les humains, par exemple.
Et est-ce que c'est possible que l'attaque, on va dire, échoue et que le virus n'y arrive pas et que les choses s'empirent?
Oui, tout à fait. En fait, il y a certaines bactéries qui vont réussir en fait à ne pas mourir à cause du virus, mais par contre elles vont rester un peu comme maraboutées par le virus, et en fait ça va les transformer. Et ça,
comme des zombies quoi, elles sont possédées par le virus.
Oui, un peu possédées, puis surtout elles deviennent plus méchantes.
Oh là là.
Et ça c'est bien connu en médecine, par exemple on sait qu'il y a une bactérie pas très sympathique qui s'appelle le streptocoque du groupe A, qui quand elle n'est pas infectée par un virus va donner une angine, donc une angine bactérienne, une angine avec des points blancs, donc une angine pas très sympathique. Mais si cette même bactérie qu'on appelle le streptocoque, elle est elle-même infectée par un virus, par un phage, à ce moment-là, elle peut être encore plus pathogène. Et non seulement tu auras mal à la gorge, mais en plus, tu pourras avoir des boutons rouges qui vont apparaître sur le corps. Et ça, c'est ce qu'on appelle la scarlatine. Et donc, en fait, la scarlatine, c'est ni plus ni moins qu'une infection avec une bactérie elle-même infectée par un virus.
Donc, quand Tariq demande est-ce que nos microbes attrapent des microbes, la réponse
est vraie. Et donc, essentiellement, ce sont des bactéries qui peuvent se faire infecter par des virus.
Mais qui apprennent aussi les bactéries à se défendre face aux agresseurs. Et c'est tant mieux. Salut les matelots.
Les petits bateaux. À retrouver quand vous voulez sur l'appli Radio France.
Les petits bateaux de Camille Cronier.
France Inter. Le 5-7.
Il revient chaque mardi dans le 5-7 pour la faute aux jeux vidéo. Bonjour Olivier Bénisse.
Bonjour Mathilde.
Cette semaine, vous nous proposez d'aider une pauvre petite fille sans défense.
Oui, avec un jeu qui a de quoi vous coller des sueurs froides, Out of Sight, un jeu qui commence par un bruit de porte qui se verrouille sur vous.
Good night, Sophie.
La petite Sophie est désespérée, aveugle, sans défense, retenue dans une chambre aux allures de cellule. Elle ne peut que pleurer sur son ours en peluche, Teddy.
Teddy, I'm scared.
Teddy, j'ai peur. Je suis là depuis si longtemps. Je veux partir d'ici. Attends. Qu'est-ce qui se passe?
Teddy?
Tu peux me voir? Tu peux voir? Tu seras nos yeux et moi je vais nous faire sortir.
Car dans Out of Sight, ce n'est pas à travers les yeux de Sophie que vous allez vivre l'histoire, mais bien ceux de Teddy, son ours en peluche. Contrairement à la petite fille, lui peut encore voir et lui montrer ce qu'il voit par on ne sait quelle magie. Et c'est tout le génie du jeu. Dans les bras de la petite fille, vous allez être ses yeux et lui permettre de progresser. Lorsqu'elle aura besoin d'utiliser ses mains, elle pourra vous poser sur une petite couverture, d'où vous pourrez la voir agir de loin. Concrètement, vous alternez donc entre une vue à la première personne, portée par Sophie, ou une vue à la deuxième personne, posée dans un coin. Un système original et rafraîchissant qui va vous demander de penser différemment pour résoudre les énigmes sur votre chemin.
Et qui contribue aussi à créer une ambiance très particulière.
Déjà parce que le design général est très réussi, on pense beaucoup aux œuvres de Tim Burton ou au film animé Coraline, mais aussi au jeu vidéo Little Nightmares. Ensuite parce qu'il est soutenu par un excellent casting entre la petite Sophie, son inquiétante fausse maman.
J'ai bien peur de devoir mettre fin à ton petit jeu de cache-cache, Sophie. Non, laissez-moi sortir.
Ce soir, c'est ton grand soir.
Je ne peux pas me permettre de te laisser te balader partout toute seule.
Mais aussi le terrifiant Clayton, son âme damnée.
La maîtresse a des plans spéciaux pour toi, ce soir. C'était quoi déjà son nom à celle-là?
Sophie,
je crois. Sors de là, Sophie. On ne te fera aucun mal.
Et le concept de base lui-même alimente le sentiment délicieux d'oppression qu'on ressent manette en main. Dans les bras de Sophie, on ne voit pas grand-chose et chaque fois que vous aurez une vue d'ensemble en étant posée, vous tremblerez aussi pour elle, si loin et si vulnérable sans vous. Sans oublier des passages très malins où le fait de voir à travers les yeux de Teddy change totalement la saveur d'une scène. Imaginez par exemple ce qui se passerait si le redoutable Clayton arrivait à mettre la main sur l'ours en peluche avant de pourchasser Sophie avec.
C'est qui ça? Ton ami en peluche?
eh bien, il va t'attraper.
Au-delà de son idée de départ très maligne, tout fonctionne donc miraculeusement bien. J'ai personnellement parcouru tout le jeu d'une traite en un peu plus de 3 heures, un peu court certes, mais c'est sans doute la bonne durée pour que le concept ne s'essouffle pas, contrairement à cette pauvre Sophie qui n'en finit pas de courir. Allez Mathilde, vous n'allez quand même pas la laisser toute seule dans le noir.
C'est pas pour moi, ça me fait trop peur ce genre de choses. Out of Sight, un jeu disponible sur PC, PlayStation 5, Xbox et Switch.
Et si vous êtes complètement maso, ça existe aussi en version réalité virtuelle.
Ah bah non, encore moins. Non. Merci Olivier Bénis.
Recruter une personne de plus de 50 ans ? Jamais de la vie.
Ah, moi, c'est la meilleure décision que j'ai prise. J'ai recruté Sophie, 55 ans, pour être vendeuse dans mon magasin. Grâce à son expérience, elle donne des conseils très pertinents et elle sait s'adapter aux besoins des clients.
Comptons sur l'expérience des 50 ans et plus. Recrutement, formation, accompagnement. Rendez-vous sur emploi50plus.gouv.fr. Ceci est un message du gouvernement.
5h59.
La météo avec TGV Inouï. Trouvez votre coin de ciel bleu dans une de nos 200 destinations en France et vers l'Europe.
Une belle journée, Elodie Calac.
Un temps estival. Ce matin, le soleil prend vite ses quartiers sur le pays. Patience malgré tout, près de la Manche, il y a des nuages bas et des brouillards, souvent vite effacés, mais certains peuvent résister un peu plus longtemps vers la pointe bretonne ou le littoral normand. Cet après-midi, à peine quelques nuages pour décorer le ciel de l'intérieur de la Bretagne vers la région parisienne, les Hauts-de-France et le Grand Est. Des nuages aussi sur les Pyrénées et sur le sud des Alpes, avec une averse possible jusque dans l'intérieur de la Provence et sur la Côte d'Azur. Le vent de nord souffle en Corse jusqu'à 60 km à l'heure sur l'Est. Les températures poursuivent leur hausse. Ce matin, comptez 10 à 16 degrés, jusqu'à 22 à Nice. Cet après-midi,